A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Des vestes à 11 euros, des chaussures à moins de 15 ou encore des t-shirts à moins de 2 euros. Voilà les prix pratiqués par les enseignes de fast et d'ultra fast fashion. Des tarifs extrêmement bas, avec un seul objectif, vous pousser à consommer toujours plus. Alors la fast fashion, c'est quoi ? C'est une partie de l'industrie du vêtement qui produit des habits de mauvaise qualité et parfois fabriqués dans des conditions douteuses avec des produits nocifs pour la santé. Le tout à des prix défiant toute concurrence et des centaines, si ce n'est des milliers de nouvelles références mises en vente chaque jour. Surproduction, surconsommation, ce modèle est aussi néfaste pour la planète. Importés d'Asie, ces vêtements finissent souvent par se retrouver à l'autre bout du monde, polluant l'environnement. H&M, Zara, Primark, Shein et Temu, les marques de fast fashion se multiplient ces dernières années avec un grand succès auprès des consommateurs. Un succès qui nuit également à l'industrie européenne qui voit de plus en plus de ses clients se détourner au profit de ces plateformes souvent chinoises. Alors pour lutter contre la fast fashion et ses dérives, une proposition de loi est née en France. Votée en mars à l'unanimité par l'Assemblée nationale, ce texte porté par la députée Horizon Anne-Cécile Violent vise à instaurer un système de bonus-malus. En clair, un malus s'appliquerait sur les vêtements de fast fashion quand un bonus viendrait rendre plus accessible ce produit en Europe et en France. Publicité, éco-score, cette proposition a bien d'autres mesures, dont certaines qui promettent de faire débat au Sénat. Alors pour comprendre ce que prévoit ce texte et sa raison d'être, Siècle Digital s'est entretenu avec le député Les Républicains Antoine Vermorel-Marquès. C'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Antoine Vermorel-Marquès.
Bonjour.
À 31 ans, vous êtes député de la 5e circonscription de la Loire, étiqueté Les Républicains, et vous êtes membre de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Vous êtes à l'origine d'une proposition de loi qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois. Une proposition pour instaurer un système de bonus-malus sur les produits de la fast fashion. Une proposition concurrente d'un autre texte porté par la majorité. Texte qui a été d'ailleurs adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale mi-mars. Bon, là, je résume. Hein. Bien évidemment, on va revenir plus en détail sur ce texte qui a été voté, sur votre proposition aussi. Avant, monsieur le député, pourquoi ce n'est pas votre texte qui a été voté ?
Vous savez, c'était pas une proposition de loi concurrente, c'est une proposition de loi qui était complémentaire. Elles se sont faites de manière concomitante. Et moi, je l'ai toujours dit, j'attache plus d'importance à l'étiquette du vêtement qu'à l'étiquette politique. Et à partir du moment où mes amendements ont pu se retrouver dans le texte de la proposition de loi de Anne-Cécile Violent du groupe Horizon, j'avais aucune raison de ne pas le soutenir. Et je me réjouis qu'on ait fait encore plus rapide que prévu. Et j'espère que le Sénat aura l'occasion d'étudier ce texte avant l'été.
Donc, vous soutenez ce texte porté par la députée Anne-Cécile Violent ?
Oui, bien sûr, je l'ai voté. Vous savez, je me fous de savoir si c'est le mien, le sien, le nôtre, le vôtre. L'enjeu, c'est comment on régule la fast fashion et pas quelles sont les querelles politiciennes ou l'étiquette partisane d'un texte. Voilà, donc on est arrivé à des avancées majeures et moi, je m'en félicite qu'on soit arrivé collectivement, ce qui est encore plus fort.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un point qui vous chiffonnait un petit peu, si je puis dire, de ce texte sur la publicité, mais on y reviendra, on en parlera juste après. Avant, si vous deviez nous expliquer un petit peu ce que contient, ce que prévoit cette proposition de loi, comment vous nous l'expliqueriez ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Alors simplement, c'est d'abord et avant tout un système de bonus-malus, donc c'est pas une taxe supplémentaire, c'est vraiment de dire il y a des produits qui viennent de Chine sans respecter aucune de nos normes sociales, environnementales, sanitaires. Ces produits-là méritent un malus parce qu'ils coûtent cher à l'environnement, ils coûtent cher à nos finances publiques, ils coûtent cher parfois même à notre santé. Et de l'autre côté, on a des produits plus vertueux, du Made in France, du Made in Europe, qui eux respectent ces normes-là et qui méritent d'être aidés. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va mettre un malus sur les produits qui viennent de Chine et qui ne respectent pas nos normes. Et ce malus-là, on va le prendre pour financer un bonus sur le Made in France et le Made in Europe.
Et donc, finalement, ça ressemble énormément à ce que vous proposiez dès le départ, non ?
Ah oui, c'est exactement le même dispositif. Il y a effectivement juste l'enjeu de la publicité en plus, et puis la définition de la fast fashion aussi, où pour l'instant, on n'a pas obtenu un consensus à l'Assemblée nationale, et j'espère qu'au Sénat, ils obtiendront ce que nous n'avons pas encore obtenu en séance.
Alors justement, la définition de la fast fashion, c'est intéressant comme point, ça semble a priori assez simple à définir. Quel est le problème sur cette définition ?
Alors, il faut arriver à avoir suffisamment d'ambition et en même temps être suffisamment agile pour s'adapter à ces grandes entreprises. Suffisamment d'ambition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut qu'on puisse définir ce que c'est la fast fashion. La fast fashion, ce sont des entreprises qui mettent en ligne plus de 1000 nouveaux produits par jour et qui concurrencent nos industriels du textile et de l'habillement. Et suffisamment d'agilité, parce que si vous inscrivez dans le marbre que, par exemple, c'est la fast fashion, c'est 1000 nouveaux produits par jour et que des grandes entreprises décident finalement de mettre 999 produits, nouveaux produits par jour, eh ben, ils sont sous le seuil et donc ils ne seront pas soumis au malus. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est de dire, non seulement on va l'inscrire dans la loi, dire par exemple, ça peut être 1000, mais ça peut pas être en dessous de 1000, et puis après, c'est au gouvernement de fixer par décret. Pour l'instant, dans le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, on n'a que une définition par décret, ce qui peut poser des difficultés.
Pourquoi, selon vous, il faut absolument s'attaquer à la fast fashion ? Est-ce que votre motivation est écologique, industrielle ?
Ma motivation, elle est industrielle et environnementale. Industrielle parce que aujourd'hui, nos industriels sont concurrencés par l'ultra fast fashion. On a eu une suppression de 10 000 emplois l'année dernière dans le secteur de l'habillement. Et environnemental parce que on ne peut pas accepter un modèle de consommation qui vise à inciter chaque consommateur à acheter toujours plus pour produire toujours plus pour ensuite nous envoyer tous les vêtements par avion pour que vous les consommiez une fois ou deux, qu'ils finissent au fond de votre garde-robe et qu'au bout de 6 mois vous les mettiez à la poubelle pour qu'ils finissent sur une plage en Afrique en polluant les mers et les océans. Et donc, ce modèle de consommation, il ne nous convient pas. Et donc, il faut qu'on lutte contre, à la fois pour sauver nos emplois, mais aussi pour sauver notre environnement.
Ça prendrait en compte les entreprises européennes aussi pour le système de bonus ?
Bien sûr, bien sûr. En fait, je simplifie quand je dis c'est un bonus sur le Made in China et un malus sur le Made in China et un bonus sur le Made in Europe. En fait, l'enjeu dans tout ça, c'est comment on va le définir ? C'est par le biais de l'empreinte carbone et du passeport textile. Et donc, de fait, au vu des critères qui sont mis dans l'empreinte carbone et le passeport textile, ce sont les entreprises françaises et européennes qui sont les plus vertueuses et donc qui bénéficieront du bonus, et les entreprises chinoises qui sont les moins vertueuses et donc qui seront soumises au malus. Mais à la suite de ça, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de discrimination nationale sur la production, et donc ça incitera tout le monde, et d'autant plus nos producteurs français, à être très vertueux en la matière, mais ils le sont déjà et ils ont un gain de compétitivité très important sur le sujet du textile made in France.
Alors concrètement, comment ça se passerait ? Par exemple, je suis un consommateur, je veux acheter sur le géant chinois Shein, représentant par excellence de l'ultra fast fashion. Est-ce que le vêtement va être plus cher de 5 euros ? Mais de l'autre côté, si je vais sur le site d'une marque française, je vais avoir 5 euros offerts ou le prix va baisser de 5 euros ? Comment ça va se passer ce bonus-malus ?
C'est l'idée. Alors l'idée, c'est que le malus de 5 euros va être appliqué aux producteurs chinois. L'objectif, c'est pas de le taxer. L'objectif, c'est qu'il change ce mode de production. Le jour où il arrête de faire de la surproduction et qu'il vient produire en Europe, on n'a plus aucun problème avec lui. Si à partir du moment où il respecte ses normes sociales et environnementales. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'argent qu'on lui prélèvera, soit lui, il réduit sa marge et donc il paye, soit il le met dans le prix du produit. Donc là, effectivement, il y aura une augmentation du prix du produit. Et cet argent qui est collecté, il sera principalement redistribué au bonus. Et là, le producteur français ou européen aura deux choix aussi. Soit gagner en compétitivité et donc faire baisser automatiquement le prix de son produit, soit prendre le malus et le mettre sur le prix du produit pour le faire baisser. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment qu'à la fin, vous avez par exemple un t-shirt, moi, je sais pas, à 10 euros sur Shein, il va passer à 15 euros. Et un t-shirt made in France à 20 euros, il va passer à 15 euros. Et à la fin, vous aurez le choix entre un produit de mauvaise qualité à 15 euros ou un produit de bonne qualité produit chez nous, crée de l'emploi chez nous au même prix. Et donc, je pense que vous ferez le choix du Made in France et du Made in Europe.
Pour compléter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, hein, on parle d'un potentiel malus qui pourrait représenter jusqu'à 50% du prix du produit avec un plafond à 10 euros à terme. Encore aussi l'obligation pour les marques qui seraient concernées d'afficher un éco-score, qui est un dispositif déjà prévu sur la base du volontariat. En revanche, à compter de janvier 2025, là, ce serait obligatoire. On verra aussi le texte final qui ressortira du processus législatif. Clairement, on peut le dire, même si ce n'est pas marqué noir sur blanc dans le texte, mais clairement, ce sont les géants chinois que sont Chine ou encore Temu, qui sont visés.
C'est pas eux qui sont visés, c'est leur mode de production qui est visé. Et ça, c'est important de le dire. Moi, l'enjeu, c'est pas de m'en prendre à des marques chinoises. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ces marques-là changent de comportement et viennent investir en Europe pour produire des vêtements pour les Européens. Aujourd'hui, ces marques n'ont créé aucun emploi sur notre territoire, si ce n'est des emplois de lobbyistes. Et donc, moi, je le dénonce parce que je considère que dans les années 80-90, si vous voulez, on a délocalisé la production de vêtements en Asie. Aujourd'hui, on délocalise la commercialisation des vêtements. On a des entreprises chinoises qui effectivement envahissent nos marchés sans créer une seule boutique, sans créer aucun entrepôt, sans créer aucun emploi sur notre territoire. Et c'est ça qui est une vraie difficulté. Si elles changent de comportement et qu'elles jouent le jeu du marché européen, bah, il y a aucun problème pour qu'elles puissent produire chez nous. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
Revenons aussi un petit peu sur les critères. Vous les avez déjà évoqués, les critères pour déterminer quelles entreprises seront concernées ou non. C'est vrai que c'est assez, non pas flou, mais vague. En tout cas, dans la proposition actuellement, il a notamment marqué que ça dépendra du nombre de nouveaux modèles par unité de temps ou du nombre de modèles et de la durée moyenne de commercialisation, que ça peut être fixé par décret par le gouvernement. C'est un peu vague. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça risque pas d'être inefficace si c'est le gouvernement qui fixe par décret?
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on inscrive dans la loi un plancher en deçà duquel le gouvernement ne puisse pas aller. Parce que je vois bien ce qui va se passer, c'est que si la loi va jusqu'au bout, elle sera adoptée et donc le gouvernement devra l'appliquer. Et à partir du moment où il va l'appliquer, il y aura probablement des mesures de rétorsion de la part de la Chine, des menaces diplomatiques, des menaces économiques, en disant « vous taxez notre textile, et ben on va vous taxer, je sais pas moi, votre cognac ou je ne sais quoi ». Mais il faut qu'on soit suffisamment ambitieux pour que cette proposition de loi, elle fonctionne, parce que aujourd'hui, la balance commerciale entre la France et la Chine, et même globalement entre l'Europe et la Chine, elle se fait clairement au détriment de la France et de l'Union européenne. Donc, il faut qu'on soit en mesure de ne plus être naïf, d'engager une épreuve de réciprocité avec la Chine, non pas pour leur fermer notre marché, mais juste pour leur dire, il est interdit pour nous d'importer ce qui est interdit de produire chez nous. Voilà. Et d'appliquer les mêmes normes à nos frontières. Quand nos viticulteurs vont vendre du vin en Chine, ils respectent les normes viticoles chinoises. Bah, ça doit être la même chose pour le textile. Quand un exportateur chinois envoie des vêtements en Europe et en France, il doit respecter les normes qu'on impose à nos industriels.
Il est en effet plus que probable que Pékin réagisse et mal à une telle loi. Cette question du seuil est importante parce que Chine, par exemple, propose 7000 nouvelles références par jour. C'est colossal, on a presque du mal à se rendre compte. C'est nettement supérieur à d'autres marques, d'autres sociétés qui pourraient aussi entrer dans la catégorie fast fashion ou du moins dans la catégorie surproduction pour beaucoup. Je pense par exemple à Decathlon, mais aussi Pimki. Pimki, c'est 1500 nouvelles références, non pas par jour, mais par semaine. Certes, c'est nettement inférieur à Chine, mais on reste dans de la production en masse. Et H&M ou encore Zara, on est là sur 500 nouvelles références par jour. On voit qu'il y a des entreprises européennes qui sont potentiellement concernées. Est-ce que ça risque pas de leur faire plus de mal qu'autre chose? Pimki, Decathlon, ça risque de les freiner?
Elles ne sont pas concernées par le texte parce que pour une raison simple, elles ne font pas partie de l'ultra fast fashion qui met 1000 nouveaux produits par jour. Par ailleurs, elles créent de l'emploi puisqu'elles ont des magasins en France et en Europe et qu'elles ont une commercialisation qui est traditionnelle. Donc, elles sont pas concernées. Après, là où ça doit les interpeller, c'est qu'effectivement, ce que l'on cible aussi, c'est où est fait le vêtement, comment il est fait, dans quelles conditions sociales et environnementales. Et tout le monde doit faire des efforts en la matière. Et moi, je me réjouis, par exemple, dans ma circonscription, que de voir que des grandes marques comme Aigle, Éric Bompard, Le Pull Français, relocalisent leur production pour produire en France. Et ça, c'est une très bonne chose parce que elles se rendent compte que déjà, il y a un consommateur pour ça et qu'en plus, c'est plus vertueux pour elles en matière de RSE et en matière de politique environnementale. Donc, si on y arrive, c'est très bien. Mais à ce stade, elles ne sont pas concernées. En revanche, il y a un signal qui leur est envoyé sur la qualité des vêtements qu'ils doivent fournir aux consommateurs.
Mais est-ce que ce n'est pas là un peu hypocrite? Ça revient presque à dire on s'attaque à la fast fashion et à la surproduction. J'ai bien compris que, selon votre définition, ces entreprises-là, comme Decathlon, n'entrent pas dans la fast fashion. Mais encore une fois, ça pourrait entrer dans la production de masse, dans la surproduction. Est-ce que il n'y a pas un peu d'hypocrisie de dire on s'attaque donc à la fast fashion et à la surproduction, c'est aussi le but de ce texte, mais pas quand c'est français?
C'est pas, mais pas si c'est français. Moi, je connais personne qui achète 7 ou 8 casques de vélo à Decathlon ou 7 ou 8 maillots de bain chez Decathlon. Donc il faut, alors que je connais beaucoup de personnes qui achètent 7 ou 8 t-shirts sur Chine ou sur Temu parce que les t-shirts sont à 2 €, qu'ils arrivent directement chez vous par avion, que vous n'avez rien besoin de faire et que si vous le souhaitez, les retours sont même quasiment gratuits. Voilà, je vais pas leur faire leur promotion, mais leur modèle, leur business model, c'est ça. Et c'est quand même pas le business model de l'entreprise que vous avez cité qui crée de l'emploi en France et qui respecte un minimum de normes sociales, environnementales et sanitaires. Après, effectivement, tout le monde a des efforts à faire sur notamment la localisation de la production, qui est un enjeu majeur, que vous soyez une entreprise traditionnelle ou non, parce que malheureusement, dans les années 80-90, on a délocalisé une grande partie de notre production textile en Asie.
Où en est-on dans le processus législatif maintenant? La prochaine étape, c'est le Sénat?
Donc là, on l'a effectivement adopté à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Elle doit passer au Sénat a priori avant l'été. Et puis ensuite, il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui sera convoquée. Et donc, il y aura un vote final sur le texte à l'Assemblée et au Sénat pour, moi, je l'espère, une mise en œuvre soit début 2025, soit courant 2025, le temps que les décrets soient en application et que les plateformes puissent adapter leur système informatique pour pouvoir effectivement mettre en place ce système de bonus-malus.
Le Sénat, qui est à majorité à droite de votre famille politique, et on l'a déjà évoqué, il y a un point qui pose un petit peu problème dans le texte voté à l'Assemblée nationale, c'est que les marques concernées seront aussi interdite de publicité sur tous les supports, y compris par les influenceurs, qui est l'un des canaux privilégiés de Chine et Temu. Et ça, eh bien, ça ne vous plaît pas. Est-ce que ce point-là pourrait remettre en cause le vote par le Sénat? Et pourquoi aussi ce point ne vous plaît pas?
Alors, il y a trois raisons pour lesquelles ce vote ne nous plaît pas. Une raison d'abord idéologique. Moi, je suis un pro-environnement, mais profondément de droite. Et donc, je pense que mon enjeu, c'est de réguler le marché et pas de l'interdire. Réguler le marché, ça veut dire quoi? C'est mettre un système de bonus-malus. On a des externalités négatives, donc on met un malus. On a des externalités positives, donc on met un bonus, comme sur l'automobile par exemple. On n'est pas là pour interdire le marché dans un modèle soviétique ou communiste pour dire voilà ce qui est autorisé à vendre ou pas en France. La deuxième raison, c'est que c'est une raison économique. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire du en même temps en la matière. Si vous interdisez la publicité sur ces ventes-là, ça veut dire que il y aura moins de ventes et donc moins de bonus et donc si moins de malus pardon et donc s'il y a moins de malus, il y aura moins de bonus. Donc c'est contradictoire de faire les deux. Vous pouvez faire le choix de faire l'un ou l'autre, mais faire les deux en même temps, c'est contradictoire. Et enfin, le troisième élément, c'est un élément constitutionnel, c'est une forme d'atteinte à la liberté d'entreprendre. Et donc moi je m'interroge sur le fait que si cette disposition là reste, que le Conseil constitutionnel ensuite la censure, que ça puisse fragiliser l'équilibre de tout le texte. Donc pour l'instant, c'est resté dans le texte. On verra ce qui se passe au Sénat avec les sénateurs, mais voilà, je trouve que c'est contradictoire de mettre la publicité avec le bonus-malus parce que en fait les deux s'opposent et en plus moi ça me dérange parce que je pense que idéologiquement on est là pour réguler le marché, pas pour l'interdire.
Et ça concerne aussi les influenceurs, cette volonté de ne pas interdire justement. Il me semble que vous avez fait des vidéos pour mettre en avant votre proposition de loi, vous aviez parodié des hauls, donc les présentations de produits de fast fashion par des influenceurs, généralement les influenceurs qui reçoivent des quantités importantes de ces marques pour les mettre en avant devant leurs abonnés ensuite. Donc on aurait pu comprendre que cette pratique de la part des influenceurs, la publicité via influenceurs, ça vous dérange aussi, surtout que c'est souvent des très jeunes qui suivent, des très jeunes consommateurs qui suivent ces influenceurs. Est-ce que vous souhaiteriez quand même interdire ou diminuer le recours aux influenceurs?
Et nous, ce qu'on a proposé dans la proposition de loi et qui a été adoptée, c'est des messages de prévention et d'information plus clairs pour dire que c'est de la publicité et qu'on ne laisse pas croire que c'est votre pote, votre ami qui vous fait la promotion de différents produits. Mais ça serait...
C'est déjà prévu par la loi de régulation de l'influence.
Ouais, mais là, on va encore plus loin puisqu'il serait obligé de mettre des mots, des informations de type consommer de la fast fashion, c'est détruire l'environnement, etc. Donc, ça irait beaucoup plus loin que de simplement dire je suis rémunéré pour faire cette vidéo. Ensuite, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas interdire la publicité dans les domaines parce qu'il peut le faire, par exemple, sur l'alcool, le vin, la drogue, etc. Mais on l'a jamais fait sur d'autres sujets parce que ça peut être considéré comme une atteinte à la liberté d'entreprendre. Et moi, je suis pas favorable à ce qu'on ait un État qui vienne dire vous avez le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous avez le droit de consommer ci, de pas consommer ça. Moi, je dis juste, en fait, si vous consommez ça, ça va vous coûter plus cher parce que ça nous coûte collectivement plus cher. Par contre, si vous consommez vertueusement, ça va vous coûter moins cher parce que collectivement, ça nous coûte moins cher de consommer ce type de vêtements. Et c'est, je trouve, une approche plus responsable que juste d'interdire la publicité.
En parlant de plus cher, moins cher, on a pu voir passer cette réflexion, cette question dans certains médias, sur les réseaux sociaux aussi beaucoup. N'est-ce pas là une loi anti-pauvre, dans une certaine mesure ? On parle de produits qui ne sont pas chers. Et en période d'inflation, où le pouvoir d'achat des Français a littéralement chuté, certains pourraient trouver dommage ou presque hors sol de s'attaquer à ces produits-là qui sont prisés des personnes avec un faible pouvoir d'achat. Beaucoup de consommateurs estiment qu'il s'agit d'une énième taxe. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
C'est faux. C'est le seul argument que les lobbyistes de l'ultra fast fashion ont trouvé, qui est un argument complètement faux pour deux raisons. La première, c'est que les plus modestes d'entre nous ne consomment pas sur ces plateformes-là. Ils utilisent des plateformes de type de seconde main, Vinted, Le Bon Coin, Emmaüs, Facebook Market, etc. Et c'est par ce biais-là qu'ils consomment, parce qu'ils s'intéressent au rapport qualité-prix. La deuxième raison, c'est complètement faux, parce que si l'ultra fast fashion avait pour objectif uniquement de vous habiller en pas cher, leur business model ne tiendrait pas. Leur business model, ce n'est pas de vous vendre un t-shirt à 4 euros. Leur business model, c'est de vous vendre 3, 4 ou 5 t-shirts à 4 euros. Et d'ailleurs, quand on regarde à la fin, le panier moyen d'un consommateur de l'ultra fast fashion est équivalent à un panier moyen d'un consommateur classique. Parce que leur objectif, c'est de vous inciter à surconsommer pour surproduire et de vous inciter à surcommander de manière la plus régulière possible, en vous laissant croire que vous pouvez porter un vêtement qu'une seule fois, le mettre à la poubelle, et qu'ensuite, il n'y aura ni d'impact pour votre pouvoir d'achat, ni d'impact pour l'environnement. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que des groupes de gauche, que l'on ne peut pas accuser en la matière de ne pas faire attention aux plus modestes d'entre nous, ont voté aussi ce texte à l'unanimité, voire même l'ont défendu avec beaucoup d'ardeur. Donc, je pense que cet argument-là ne tient pas, bien au contraire.
En effet, les groupes de gauche se sont ralliés au texte, avec quelques débats sur les seuils que l'on a déjà évoqués, mais ils se sont en effet ralliés au texte. Est-ce que vous diriez que finalement, devant ce genre de réflexion sur c'est une énième taxe, c'est une mesure anti-pauvre, etc., est-ce que vous diriez qu'il y a un décalage parfois en France entre nos convictions, notamment sur l'écologie, l'environnement, la réindustrialisation, et l'acceptabilité de certaines mesures que l'on devrait prendre ?
C'est pas le cas en la matière, parce que là on est sur un bonus-malus, donc c'est pas une taxe supplémentaire, c'est pas une atteinte au pouvoir d'achat, voilà. On a une opportunité de dingue de pouvoir réconcilier industrie et environnement, parce qu'on se rend compte que si on relocalise notre activité industrielle, notre empreinte carbone va diminuer. Et c'est inédit, parce que dans les années 90, souvent on opposait l'industrie avec l'environnement, l'économie avec l'environnement, et en fait les deux aujourd'hui sont complémentaires. Il en reviendra toujours, sera toujours plus vertueux de relocaliser nos industries en France. L'empreinte carbone sera toujours moindre que si on continue à produire à l'autre bout du monde et de tout importer en avion ou en bateau. Et donc, c'est cet enjeu-là qui est majeur à mes yeux et qui peut nous permettre de réconcilier les économistes et les écologistes.
J'ai une dernière question, justement. Le mot de la fin, ce sera plutôt ça. Selon plusieurs experts, plusieurs études aussi, vu le volume de vêtements qu'il y a déjà sur notre Terre, si on arrête de fabriquer des vêtements, on peut encore habiller l'humanité pendant un sacré bout de temps. Certains évoquent 100 ans. Alors, est-ce que la vraie solution, finalement, pour vraiment faire une loi en faveur de l'environnement, est-ce que la vraie solution, ce ne serait pas plutôt d'interdire les plateformes de fast fashion ?
Et comment vous le faites ? On n'a pas la possibilité juridique de le faire. Et puis, par ailleurs, l'objectif, ce n'est pas de vous interdire de vous habiller non plus et qu'on vive dans un monde de nudistes. Donc, il faut qu'on soit réaliste. Dans la transition écologique, il y a un mot qui est très important, c'est le mot « transition ». C'est comment on prend le temps d'aller vers cette transition pour accompagner tout le monde. Et moi, je défends une écologie humaniste qui met l'homme au centre de l'action. Et on ne peut pas avoir des mesures radicales comme ça qui peuvent paraître très séduisantes. En fait, elles ont des conséquences majeures en termes d'emploi, en termes d'habillement, en termes d'environnement aussi. Et donc, il faut être parfois être raisonnable et surtout mettre de l'objectivité et de la science dans ces débats-là. Et donc, c'est pour ça que ce genre de mesures, moi, elles me font souvent sourire parce qu'en fait, elles sont inapplicables et irréalistes.
Très bien. Eh bien, comme je l'ai dit, ce sera le mot de la fin. Merci, Antoine Vermorel. Je le rappelle, député de la Loire, Les Républicains.
Merci.
Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos autres podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Et on se retrouve dès la semaine prochaine.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.